Alors, je vous invite à lire dans l'Épître aux Romains du chapitre 16, versets 1 à 27. Donc, on va pas lire tout l'ensemble du chapitre, mais ça serait bien, voilà, si on peut le rétroprojecter. Et je vais vous lire quelques versets clés. Vous verrez que ça a son importance. Alors, au verset 1, il est dit, « Je vous recommande, Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. » Verset 2, « Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaénète, notre bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'église vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Cartus. À Dieu seul, sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. » Alors, avez-vous remarqué que lorsque vous lisez les épîtres de Paul, surtout dans ce chapitre 16, il y avait quelque chose de particulier? Alors, c'est rempli de plein de noms propres. Hein. Et on a vu là, avec les petits questionnaires sur les différentes vallées, que les noms propres ont leur valeur. Et Paul connaissait quand même, dans ce que l'on voit, dans tout ce qu'on peut lire dans les épîtres, un très grand nombre de personnes. Alors, pourquoi tous ces noms? Pourquoi je vous ai lu tous ces noms? Ben, on va le voir. Il faut savoir quand même que pour l'apôtre Paul, qu'avant sa conversion, il ne connaissait aucune de ces personnes qui sont citées dans toutes ces épîtres. Et en quelques années, donc, l'apôtre Paul s'est créé un réseau de partenaires et de compagnons. Hein. C'est de ça qu'il va s'agir dans la prédication. Et un nombre impressionnant. Et il y avait à peu près, on dénombre à peu près 50 personnes qui le suivaient ou qui le connaissaient ou qui l'ont aidé dans son ministère. Et une des questions que je me suis posée, c'est de se dire, est-ce que Paul aurait pu écrire ses épîtres sans la présence de tous ses compagnons? Est-ce qu'il aurait écrit la même chose? Je me dis que le fait d'avoir des compagnons, il n'y a pas que Paul, hein, mais d'autres personnages bibliques, est-ce qu'ils auraient été inspirés de la même manière? Peut-on dire que ce que Paul a écrit a été possible parce que il a bénéficié de la présence, certainement, et du soutien de tous ses compagnons? Et on verra que oui, que cette parole qui est inspirée de Dieu, elle a été inspirée par Dieu, mais aussi la présence de compagnons d'armes, de personnes qui œuvrent à côté des responsables est importante. Mais pour Jésus, c'est aussi la même chose, puisque Jésus s'est entouré de deux apôtres et de plusieurs disciples. Alors pourquoi je vous parle de ça? Qu'est-ce que ça peut venir faire dans la lecture de la Bible? Alors mon propos ce matin est le suivant. Je veux vous montrer que la révélation écrite, ce qui est écrit dans la Bible, s'est fait par des hommes qui ont été inspirés par Dieu. Ça, tout le monde est d'accord. Alors, quand Dieu veut inspirer un écrivain biblique, qu'il soit prophète, juge, apôtre ou patriarche, ce ne sont pas des travailleurs isolés. Il serait, à mon avis, un peu approximatif de penser que l'auteur ou l'écrivain biblique est une sorte d'ermite qui se retrouve dans un face-à-face seul avec Dieu. Alors, c'est vrai que c'est arrivé dans la Bible que Moïse, par exemple, quand il a reçu les tables de la loi, il était tout seul, et c'est arrivé aussi pour l'apôtre Jean quand il était sur l'île de Patmos. Mais le plus souvent, quand l'homme est inspiré, l'homme de Dieu, que ça soit Paul, les apôtres ou Jésus lui-même, ils ont eu besoin de compagnons de service. Cette notion-là, elle m'a paraissé importante, Ils ont eu besoin de ces compagnons de service, on le voit surtout pour Paul, pour enseigner et aussi pour pouvoir écrire, je dirais, des écrits bibliques. Ils ont eu besoin d'avoir des compagnons, des collaborateurs pour mener à bien leur mission et aussi respecter ce que Dieu leur demandait. Alors ce matin, j'aimerais qu'on comprenne que pour être au plus près de la volonté de Dieu, il faut savoir pour soi être aussi, être un compagnon, une aide, un collaborateur, chacun est appelé à ça, pour aider aussi nos responsables d'église. Et c'est vrai que c'est un des enseignements qui est assez peu prêché dans nos églises. C'est une thématique qui n'est pas souvent abordée dans les prédications. Mais je me dis qu'en tant que chrétien engagé dans l'église, on devrait se sentir interpellé et disponible pour tous ceux qui sont responsables dans les églises locales. Parce qu'on n'est pas, infaillible. Et on a besoin des autres et être une aide, je dirais, pour nos responsables et nos conducteurs d'église. Alors, penser que nous pouvons nous donner une parole d'autorité ou exercer un ministère d'autorité seul en face à face avec Dieu, sans tenir compte, je dirais, de nos compagnons d'œuvre, est une erreur. Alors je prendrai l'exemple de Paul, je prendrai aussi l'exemple de Jésus pour le souligner. Et en dernière partie, j'essaierai un peu de voir comment cela peut nous concerner en tant qu'Église. Alors je vais revenir là un peu sur le ministère apostolique, l'apostolat de Paul. Alors imaginez un petit peu, comme je l'ai dit au début, qu'avant d'être apôtre, Paul ne connaissait aucun des noms, aucune personne des 50 personnes qui sont citées. Enfin, on dit une cinquantaine, mais voilà, c'est un chiffre qui a été évalué par ceux qui étudient la Bible. Alors pourquoi a-t-il attiré autant de personnes? Ben, je pense qu'il fallait à un moment donné un apôtre pour annoncer l'évangile pour toutes les nations. Pourquoi? Parce que c'est un ordre de Jésus. Et c'est ce que Jésus dit à ses apôtres avant de monter au ciel. Il le dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et au verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que Jésus a déclaré que lui, il était venu pour les brebis perdues d'Israël. Hein, c'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Donc il fallait que cet évangile, cette nouvelle alliance, s'ouvre pour toutes les nations. Et pour que cette alliance soit accessible et soit scellée pour toute l'humanité, il manquait quelqu'un pour faire le travail. Et donc c'est Paul qui va se charger de cela. Donc Paul est le dernier apôtre. Donc on voit toute l'importance que Paul a pour la Bible, pour la révélation biblique. Paul, c'est l'apôtre qui va clore la révélation biblique en ouvrant, si vous voulez, la parole de Dieu à toute l'humanité. Alors que pour cette alliance du salut qui soit ouverte à toute l'humanité, donc Paul, c'est vrai qu'il a reçu le message et la révélation de Dieu, mais il a dû s'entourer de plusieurs personnes. Et souvent, quand vous regardez les noms, ces personnes venaient de plusieurs nationalités, de nationalités différentes. Maintenant, vous imaginez, si Paul n'avait eu que comme compagnon que deux ou trois personnes, ou simplement des personnes de nationalité juive. Eh bien, je pense que le texte biblique, il aurait eu une autre tournure. Donc tout ce que Paul a écrit, il a pu le faire en s'aidant de ses collaborateurs. Il a pu s'appuyer sur leur sensibilité, leur culture, leur caractère. Et pour cela, quand même, Paul a dû aussi développer des liens affectifs qui sont forts, on le voit avec Timothée et Tite, et des liens spirituels. Et c'est vrai que avoir des liens d'amitié et d'amour fraternel, c'est souvent ce qui constitue en grande partie le ministère d'un pasteur, d'un missionnaire ou d'un apôtre. Alors ça, c'est bon, c'est un ressenti. Je vous dis ça parce que quand je lisais ma Bible, ça m'avait quand même stupéfait de voir tous ces noms avec l'apôtre Paul. Paul qui donne un enseignement doctrinal qui est quand même costaud, qui est très développé, et puis je tiens à côté de ça, il cite plein de noms, et je me dis que ça fait partie de ce que Dieu voulait communiquer. Ce n'est pas simplement Paul tout seul qui reçoit cette parole divine, c'est ce qui est là, mais c'est aussi le fait qu'il était soutenu et accompagné par des collaborateurs fidèles. Bon, en sachant quand même que c'est Dieu qui veille à la rédaction finale du texte biblique. Donc Paul, par exemple, s'est appuyé sur ses valeurs et il s'est constitué une équipe de travail et un réseau de partenaires. Et on le voit souvent surtout dans le livre des Actes et aussi dans les lettres de captivité. Alors une des leçons que l'on peut tirer, c'est que nous recevons de Dieu vient bien sûr de la Bible et du Saint-Esprit, mais toujours en lien avec les personnes avec lesquelles nous travaillons. Car Dieu utilise nos compagnons d'œuvre pour nous communiquer ce qu'il veut nous dire. Alors si j'exclus les hommes et les femmes qui m'entourent pour servir Dieu en disant que je ne reçois que mes instructions, que mes ordres de Dieu, alors là je fais fausse route. Car je me mets un peu, si vous voulez, un peu en situation d'infaillibilité. Voilà, je reçois tout j'ai besoin de mes frères et sœurs en Christ pour pouvoir savoir, pour connaître aussi la volonté de Dieu. Et ça, on le voit dans le ministère de Paul avec la relation qu'il a avec Timothée et Tite. Et c'est vrai que chez Paul, il y a un peu cette notion très communautaire. On sent que quand il parle, il y a de l'attachement, surtout quand il parle de Timothée, et aussi de l'admiration et du respect quand il parle de Tite. Et comment Paul, il aurait pu parler avec autant d'autorité que les autres douze apôtres, s'il n'avait pas eu cette, je dirais ses compagnons, puisque Jésus lui-même avait besoin d'avoir des compagnons d'œuvre et puis les apôtres aussi. Donc on va juste prendre un petit exemple, un petit extrait, où il est dit que Paul a été prisonnier avec un certain Aristarque. Ce Thessalonicien avait accompagné Paul lors de son troisième voyage, et également lors du voyage de captivité vers Rome. Ensuite, il y a Epaphras, qui est aussi un compagnon. Mais qui lui était, c'était au moment où Paul était en liberté, et il y avait aussi Marc, cousin de Barnabé, ainsi qu'un juif nommé Justus. Il y a aussi Luc, Démas, ainsi qu'un chrétien d'Asie, Tychique, qui avait également accompagné Paul lors de son troisième voyage, donc etc., etc. Donc vous voyez bien que dans le message qui est adressé, qui nous est laissé dans la Bible, il y a la nécessité d'avoir des compagnons, et pour l'apôtre Paul, on a vu qu'il y en avait quand même quelques-uns qui ont constitué, je dirais, qui ont participé au ministère, je dirais, de Paul. Alors vous imaginez maintenant le même récit que je viens de vous lire, là, en enlevant toutes les personnes que je viens de citer, hein, avec ces noms grecs un peu particuliers. Alors que se serait-il passé? Vers qui Paul aurait-il pu trouver une aide ou des conseils? Je n'en sais rien, c'est une hypothèse. Parce que, bon, Dieu en a décidé ainsi, et puis Dieu, bon, veille toujours sur la transmission de sa parole, des origines jusqu'à maintenant. Mais ce que je dois retenir, c'est que Paul avait besoin de s'entourer de compagnons d'armes. Et ça se sent autour de ses écrits. Il s'en sert pour les citer. Alors il les cite à titre d'exemple, pour donner une ligne de conduite, ou pour définir un service, pour un encouragement ou un avertissement. Et sans ses compagnons, l'apôtre Paul n'aurait jamais pu écrire ses épîtres, et certainement que le livre des Actes n'aurait jamais eu ce côté vivant et alerte. Alors je vais prendre l'exemple de Timothée. Alors il est dit que Timothée était le fils spirituel de Paul, ce qui veut dire qu'il adore Dieu, et l'apôtre Paul appelle Timothée « mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur, et mon véritable enfant dans la foi ». Ce qui indique que Paul fut l'instrument de la conversion de Timothée. Donc là, on voit quand même un compagnon d'importance. Et je me dis que sans Timothée, l'apôtre Paul, est-ce qu'il aurait pu écrire les mêmes textes sur l'autorité de l'Église, sur l'inspiration de l'Écriture, sur la discipline de l'Église locale. Je pense que oui, mais le fait d'avoir avec lui un collaborateur et un fils spirituel comme Timothée, eh ben cela lui a donné certainement beaucoup plus de force et d'assurance. Et je dirais que l'amour que Paul portait à son fils spirituel montre quand même un attachement profond et pur. Et c'est important, c'est une leçon pour nous, parce que je dois toujours être attentif et tenir compte de ceux qui dirigent, de ceux qui nous dirigent dans l'église locale. Je dis que pour moi-même, je dois apprendre à ne pas faire ce que je veux dans l'église, en disant que c'est Dieu seul qui me dit ce que je dois faire, mais que je vis entouré de personnes qui sont là pour aider et je dirais accompagner donc les responsables d'église. Et le lien fraternel avec ses compagnons était si fort chez Paul que ça donnait certainement une coloration particulière. Et il a pu écrire comme ça des textes assez forts, comme par exemple dans Romains 8 au verset, chapitre 8 au verset 39, où il dit « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc pour écrire ça, c'était pas simplement quelque chose d'abstrait, mais c'est vrai que Paul, quand il était en captivité ou dans ses différents voyages, il sentait toute la puissance du lien et combien c'était important pour lui de savoir qu'il y avait des gens qui l'accompagnaient et qui le soutenaient dans son ministère. Alors maintenant, on va passer à un autre compagnon de Paul qui est Tite. Et c'est quelqu'un où il est dit dans la Bible qu'il avait une plus forte, enfin on pense qu'il avait une personnalité un peu plus forte que celle de Timothée. Alors quand on regarde ce compagnon de Paul, Tite, c'était quelqu'un qui était fiable, qui était très organisé. C'est lui qui a organisé la collecte pour les pauvres de Jérusalem. Mais Paul, à un moment donné, lui dit « Bon ben, j'ai besoin de toi, je t'embarque et on va aller à Jérusalem ». Donc Paul va à Jérusalem avec Barnabas, et là les choses ne sont pas si simples, parce qu'il faut savoir que Paul, quand il va à Jérusalem, il y a les apôtres, et il y a aussi tous les disciples qui ont connu Jésus de leur vivant. Et vous savez que c'était pas toujours évident les relations avec les apôtres, parce que Paul se sentait un peu, parfois un peu indigne, voilà, il avait eu un passé quand même un peu chargé par rapport aux chrétiens, il avait été un persécuteur, et pour lui c'était important en allant à Jérusalem pour traiter d'une question qui était la circoncision, c'était une des questions qui se posait dans le monde chrétien à l'époque, est-ce que les nouveaux convertis doivent-ils se faire circoncire ou pas, et ça a fait un grand débat, parce que c'est ce qu'on lit dans le chapitre 15 et 16 du livre des Actes. Et là, je pense que Paul avait besoin d'avoir quelqu'un qui tienne la route, il était avec Barnabas, mais d'avoir aussi un compagnon comme Tite. Et ça a une importance quand même de taille, puisque ça définit quand même une ligne de doctrine dans la Bible. Ensuite, il y a l'exemple de Jésus, à travers, je dirais, l'apôtre Matthieu et un peu l'exemple de Pierre. Alors j'ai choisi Matthieu. Alors c'est vrai qu'on ne connaît pas tellement de choses sur Matthieu. La seule chose que l'on peut dire, c'est que Matthieu, bon, a surtout écrit sur le royaume de Dieu. Alors pourquoi Matthieu a-t-il choisi cette thématique ? Ben peut-être que je me dis qu'en fonction de son ancien métier, il était collecteur d'impôts, et peut-être que Jésus avait envie, bon ça c'est une hypothèse, hein, avait envie de donner un enseignement sur le royaume, parce qu'il parle souvent du royaume, qui avait quand même des connotations très concrètes, un côté, il parlait du royaume de Dieu, et il fallait quand même quelque chose qui a un côté concret, un peu financier et politique, et pour s'en convaincre, vous ouvrez l'évangile de Matthieu, vous lisez la parabole des vignerons, la parabole des deux fils, des noces, des récompenses, et aussi l'épisode qu'il y a sur le parfum qui est versé. Et dans ces écrits de Matthieu, l'aspect économique revient très fortement. Alors peut-être est-ce que c'est dû à son métier de collecteur d'impôts, où le côté financier et matériel était très important. Ben, je dirais que ce compagnon d'œuvre de Jésus a certainement conditionné Jésus dans le vocabulaire quand il parlait, par exemple, sur le royaume par rapport aux gens qui l'entouraient. Et Jésus a choisi aussi une paix. Il avait aussi besoin de compagnons de service. Et Jésus a aussi choisi l'apôtre Pierre. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité. C'était un leader. Et Jésus savait que après sa mort, il allait être capable de conduire l'Église et de rassembler une foule comme il a fait à la Pentecôte. Et là, on voit vraiment un trait de caractère de l'apôtre Pierre. Hein. Quand on lit, par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 2 et au verset 14, il est dit « Alors Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Donc là, on voit quand même quelqu'un d'autorité. Si Jésus avait besoin de compagnons d'armes, il avait pris là aussi quelqu'un sur qui, bon, et qui avait son trait de caractère, mais qui avait une force et une autorité particulière. Et c'est important parce que il faut considérer une parole inspirée si elle n'est pas incarnée, si elle n'est pas habitée par quelque chose qui est humain, elle perd de sa force. C'est ce qui nous est redit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 14, où il est dit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ce qui veut dire que ça soit Paul ou Jésus, il faut que ce qui est écrit dans les épîtres ou les évangiles des hommes et des femmes soient cités. Sans quoi on a un évangile, on a une parole qui est désincarnée, quoi. Et c'est pour ça que tous ces hommes de Dieu avaient besoin de compagnons et d'être entourés d'hommes qui les soutiennent et qui les accompagnent. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que le principe d'une parole inspirée disparaît si elle n'est pas incarnée. Et si Paul avait eu 50 compagnons d'œuvre qui sont nommés, c'est parce que l'anonymat n'existe pas dans la Bible. Hein. Pour Dieu, il ne doit pas exister non plus dans l'Église, à part pour certaines questions au sujet des offrandes et aussi à travers aussi une certaine, je dirais, souci d'humilité. Mais à part ça, il n'y a pas d'anonymat dans la Bible. Les choses doivent être... Quand Dieu appelle quelqu'un, il l'appelle par son nom et on sait de quoi il parle. Alors pour conclure, qu'est-ce que je dois retenir un peu de tout ça? D'abord, je dois reconnaître l'autorité des responsables de l'Église. Je dois reconnaître l'autorité du pasteur, des conseillers, des diacres. Et vous constaterez que les compagnons de Paul, quand il les cite au début, c'était simplement des gens qui étaient des aides. Mais au fur et à mesure que Paul avançait dans son ministère et au fur et à mesure que ces personnes grandissaient dans leur foi, eh ben, ils ont acquis une autorité spirituelle plus grande, ce qui a permis la croissance, je dirais, exponentielle des églises dans le monde romain. Et toutes ces personnes-là, on n'a pas non plus forcément des indices, mais quand on lit l'histoire de l'Église, on sait que ces personnes-là sont devenues évangélistes, conducteurs d'églises anciens. Et ils devaient rappeler la saine doctrine. Donc tous n'ont pas eu cette même trajectoire. Il y a certains compagnons qui ont abandonné l'apôtre Paul et aussi qui ont abandonné Jésus. Mais cela n'a pas empêché, si vous voulez, que la Bible soit écrite et que les épîtres et les évangiles soient rédigés. Alors pour l'église de Loriol, on fait comment? Eh bien, on se construit une organisation qui soit approuvée par Dieu lui-même en respectant, je dirais, la règle des apôtres, qui est la seule règle valable, je dirais, pour construire l'église locale. Alors, quelle est cette règle? Eh bien, on trouve tous ces repères dans le livre des Actes et aussi dans les épîtres de Paul. Et c'est dire que Christ est notre Seigneur et Sauveur, et qu'il est le Seigneur et le Sauveur des élus qui ont été prédestinés, et que l'église est l'épouse de Christ. Ce sont des principes sur lesquels on doit se baser pour construire l'Église et pour, maintenir le développement de l'Église locale. Et il y a plusieurs principes comme ça. Il faut prendre conscience que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est un principe fondamental pour toute église locale. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi se rappeler que l'Ancien et le Nouveau Testament est la parole de Dieu. Alors ça vous paraît des évidences, mais c'est important pour affermir et consolider notre église, l'église de Loriol, comme d'autres églises locales. Alors je ne vais pas donner de recettes, mais il n'est pas difficile de voir quels sont les besoins de notre église pour répondre à ce que Dieu me demande de faire. Alors ce qui est extraordinaire, il y a tout ce qui est un peu les devoirs, mais il y a aussi toutes les potentialités, tout ce que nous pouvons aujourd'hui en tant qu'église espérer pour voir notre église grandir, se consolider et croître, quoi, et pour voir un peu tout ce qu'elle est capable de donner en termes de vie. Alors pour ça, bien, on doit considérer notre place dans l'église, et je me dis que une des attitudes, une des clés, c'est d'essayer de se mettre un peu dans cette disposition d'esprit, d'être un compagnon d'œuvre, comme pouvaient l'être les compagnons d'œuvre de Paul. Et que c'est une façon, c'est une des méthodes que l'on peut s'approprier pour être le plus, je dirais, le plus utile au service de l'Église. Et pour conclure, je vais vous citer, je dirais, un des critères des ministères que l'on peut exercer dans notre Église. Dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 11, il est dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, et pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc on a là quand même des indications précises pour savoir comment se positionner pour être au plus près du service dans l'Église et accompagner aussi nos responsables. Et je vous laisse cette parole, que Dieu puisse ouvrir votre intelligence pour discerner ce qu'il nous demande à faire et quelle est sa volonté. Et que Dieu vous bénisse. Merci.